RFI, 8h30 à Paris, 6h30 à Dakar et en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Nemo Impis. Deux enlèvements jeudi, deux tentatives d'enlèvement hier, des responsables politiques maliens dans la crainte.
Une forte présence policière à Bamako malgré le report du rassemblement prévu ce vendredi. Report décidé après la suspension de toutes les activités politiques du pays par la transition. Après la Russie, le Maroc ou la Turquie, le Niger se rapproche de l'Iran. Accord de protocole signé jeudi à la clé de la formation et du partage d'informations sur différents sujets. Lutte contre le terrorisme et contrôle des frontières en tête. Le Sénégal ensuite est la réaction de l'APR, le parti de l'ancien président Macky Sall après les poursuites devant la haute cour de justice de 5 de ses ministres. Le Sénégal où l'on s'attend à un renouveau basé sur la réconciliation après l'élection de Léon XIV à la tête de l'église catholique. Et puis un mot de boxe, le franco-sénégalais Souleymane Sissoko combat ce soir à Malabo pour une place en finale mondiale chez les moins de 67 kilos.
Pas d'agitation dans les rues de Bamako hier, mais des craintes pour certains hommes politiques.
Le rassemblement prévu par une centaine de partis n'a pas eu lieu. Il avait été reporté après la décision des autorités de transition de suspendre l'ensemble des activités politiques du pays. Un gros dispositif policier était tout de même déployé dans la capitale. Et depuis jeudi, plusieurs cas d'enlèvement ou tentatives d'enlèvement de représentants politiques par la sécurité d'État ont été signalées. Les détails avec David Baché.
Le Mali est devenu la Corée du Nord, soupire un opposant qui confie rester terré chez lui. D'autres, par précaution, ont quitté Bamako ou se cachent chez des amis. Jeudi, un militant du parti Yelema a été enlevé par des hommes encagoulés en pleine rue et en pleine journée dans la ville garnison de Kati, près de Bamako. El Bachir Thiam n'est pas un cadre de Yelema, mais il est une voix critique connue à Kati, fief des militaires au pouvoir. Dans la soirée, l'ancien député Alassane Abba, secrétaire général du parti CODEM et vice-président de la coalition Djigui-Hakoura, a été enlevé à son domicile par des hommes armés et encagoulés qui l'ont brutalement embarqué dans un véhicule sans plaque. Hier, Baïssa Koné, président du parti VNDA, également membre de Djigui-Hakoura, n'était pas chez lui lorsque se sont présentés deux hommes venus le chercher. Hier encore, ce sont des jeunes qui se sont opposés à l'enlèvement d'Ibrahima Tamega, membre du parti La Convergence et du collectif des jeunes pour la démocratie. Une source sécuritaire malienne confirme ce que la méthode laissait comprendre, c'est la sécurité d'État qui se livre à ces enlèvements. En dehors de tout cadre judiciaire, ils visent à étouffer le mouvement de contestation inédit qui a débuté le week-end dernier au Mali.
David Baché, le meurtrier présumé d'Aboubacar Sissé transféré en France. Olivier Adzovic, 20 ans, accusé d'avoir tué le jeune malien il y a deux semaines dans une mosquée du sud de la France. La justice italienne l'a remis hier, l'Italie, où il s'était enfui avant de se rendre lui-même à la police. Il est poursuivi pour assassinat à la raison de la race ou de la religion. Aboubacar Sissé a lui été enterré jeudi dans son village natal dans la région de Kaï, dans l'ouest du Mali. Plusieurs dirigeants africains ont assisté hier au défilé à Moscou pour les 80 ans des commémorations de la capitulation de l'Allemagne nazie. Parmi eux, le capitaine Ibrahim Traoré. Le chef de la junte burkinabé a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu à l'issue de la cérémonie. Il s'est également entretenu avec le vénézuélien Nicolas Maduro pour qui, je cite, « au-delà du renforcement des relations entre le Burkina Faso et le Venezuela, il s'agit de bâtir de bonnes choses entre l'Afrique et l'Amérique du Sud ».
C'était en janvier 2024. Mahamane Lamine Zeyn, le premier ministre nigérien, se rendait à Téhéran.
Et cette semaine, Julien, un peu plus d'un an après, c'est une délégation iranienne qui a fait le trajet inverse vers Niamey, la capitale où a été signé un protocole d'accord sur la coopération sécuritaire entre les deux pays. Nouveau signe, depuis l'arrivée au pouvoir des militaires en juillet 2023, de la consolidation des partenariats du pays. Après la Russie, la Turquie ou encore le Maroc, Magali Lagrange, c'est de l'Iran que se rapproche le Niger.
Lutte contre le terrorisme et la criminalité, contrôle des frontières, les coopérations possibles entre Niamey et Téhéran sont passées en revue, séance de travail autour du ministre nigérien de l'Intérieur, le général Toumba, et du commandant général des forces de l'ordre iraniennes. À la clé, la signature d'un protocole d'accord pour de la formation et du partage d'informations, détaille l'agence nigérienne de presse. Ce qui peut intéresser Niamey, ce sont les équipements iraniens, en particulier les drones, explique un chercheur spécialiste du Niger. Pour sa part, Téhéran a selon lui un œil sur l'uranium nigérien. Or, le Niger a besoin d'argent frais, poursuit-il, et plus de 1000 tonnes d'uranium qui n'ont pas pu être exportées sont stockées dans le Nord, produites par la Somaïr, filiale du groupe français Orano, avec qui les relations se sont encore tendues cette semaine. L'an dernier, le premier ministre nigérien s'était rendu à Téhéran. Peu après ce voyage, le Niger avait dénoncé ses accords militaires avec les États-Unis. Halima Aman Laminzen avait alors accusé Washington d'avoir menacé son pays de sanctions en cas d'accord de vente d'uranium à l'Iran, tout en assurant que rien n'avait été signé avec Téhéran.
Magali Lagrange, le Niger où trois journalistes de la radio Sahara FM ont été relâchés ce vendredi, interpellés dans la nuit de mercredi à jeudi par la police d'Agadez avant d'être placés en garde à vue. Le groupe Air Info, dont fait partie cette radio, indique qu'ils ont été présentés au juge hier, juge qui les a libérés sans poursuite. Ils avaient relayé une information publiée par LSI Africa concernant des contrats entre le Niger, la Russie et la Turquie qui auraient été rompus.
Au Sénégal, cinq ministres de l'ancien président Macky Sall poursuivis devant la Haute Cour de justice.
On vous en parlait déjà hier, quatre d'entre eux font l'objet de soupçons de détournement liés au fonds de lutte contre le Covid-19, le cinquième visé pour corruption. Après cette décision, l'APR, parti de l'ancien chef de l'État, demande un procès équitable. Et ce matin, maître Sidiki Kaba, ancien premier ministre et cadre de l'Alliance pour la République, se dit serein face à la procédure en cours. C'était lors d'une conférence de presse tenue hier.
Il y a eu une résolution qui a été prise par l'Assemblée nationale pour leur mise en accusation devant la Haute Cour de justice. C'est une décision grave. La manière dont les choses ont été organisées. Il y a eu un lynchage médiatique. Dans le cadre d'un état de droit, il est important de rappeler qu'il y a la présomption d'innocence. Lorsque vous n'avez pas été jugé, lorsque cette décision n'est pas définitive, vous restez présumé innocent. Nous demandons d'une façon claire et nette que cette instruction se fasse dans les règles de l'art, qu'il soit entendu de façon impartiale, de façon indépendante et de façon objective pour que les faits qui leur sont reprochés soient établis ou non établis si les charges ne sont pas là et qu'ils puissent ainsi recouvrer définitivement leur liberté. Nous avons confiance en notre justice.
Maître Sidiki Kaba avec Birahim Touré sur l'appel au dialogue national prévu le 28 mai. L'APR annonce son boycott dénonçant un revolver pointé sur la tempe et un climat hostile. Pour rappel, la journée nationale du dialogue a été instaurée en 2016 par Macky Sall. Le Sénégal encore où l'élection du nouveau pape était très suivie et attendue par les fidèles catholiques. Le président Bassirou Diomaye Faye a adressé ses chaleureuses félicitations à Léon XIV. Ce samedi, je vous propose d'écouter la réaction du docteur Yassine Diendion, directeur de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest à Dakar. Il attend de lui un renouveau basé sur la réconciliation. C'était quelques minutes seulement après l'apparition de la fumée blanche.
J'espère seulement qu'il va être le guide que nous attendions. Un guide qui sait réconcilier les temps, un guide qui sait réconcilier les peuples, un guide qui sait réconcilier les âmes. Quand je dis un guide qui sait réconcilier les temps, c'est un guide qui saura justement puiser dans l'histoire de l'Église pour nourrir le peuple de Dieu aujourd'hui et projeter l'Église pour demain. Un guide également qui saura justement concilier les peuples. Je l'ai entendu parler d'une certaine continuité dans la création des ponts qui relient les différents peuples. C'est tout ce que nous attendons de lui et nous prions pour lui, pour que Dieu le fortifie et lui donne toute la sagesse, l'intelligence et la force pour guider son peuple et le conduire jusqu'à lui.
Le docteur Yassine Diendion, directeur de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest à Dakar. Plus de 36 millions de personnes qui peinent à satisfaire leurs besoins alimentaires en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Des chiffres dévoilés par le PAM ce vendredi, le Programme alimentaire mondial, qui craint que ce chiffre n'atteigne 52 millions pendant la période estivale de la soudure entre deux récoltes. L'agence onusienne qui, il y a deux mois, évoquait une crise sans précédent en raison notamment d'une baisse de 40% de ses financements en 2025, mais aussi de l'arrêt des programmes d'aide américains et de la réduction des aides de plusieurs pays occidentaux.
Le dossier du journal est aujourd'hui au Bénin.
Avec ce problème d'eau potable dans les villages lacustres de la commune de Soava au Bénin, ces villages sur pilotis dont le plus connu est Gambier, les habitants vivent sur l'eau, mais paradoxalement, ils sont souvent en manque d'eau potable, un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. En 2006, grâce à l'appui d'ONG comme Emmaüs International, un projet d'accès à l'eau et à l'assainissement avait été réalisé dans la commune de Soava, avec notamment 9 points d'eau. Penaï Traoré.
Près de 20 ans après, la plupart de ces infrastructures ne sont plus en bon état et leur gestion est aussi pointée du doigt. Antoine Midofi Unga, responsable de l'ONG Sonagnon, une association qui travaille auprès des populations du lac Nokwe depuis 2002.
Depuis que l'État central a récupéré tous les points d'eau et l'a confié à des fermiers privés, cela rend un peu compliqué la gestion. Les entreprises privées sont basées sur le bénéfice, donc leur accompagnement ne suit pas souvent la réparation des infrastructures.
La population de Soava continue d'augmenter de 80 000 habitants dans les années 80. Elle est passée à 130 000 aujourd'hui. Les fontaines existantes ne suffisent plus. Certains villages dépendent des localités voisines. Antonin Unga.
Les parties qui n'ont pas accès à l'eau potable, ils sont obligés de faire recours vers les villages qui sont plus proches. Et vous savez très bien qu'en milieu lacustre, l'eau peut ne pas être polluée à l'approvisionnement, mais lors du transport dans la barque, elle peut être polluée. Donc voilà un peu le danger que court cette population.
Plusieurs villages de Soava disposent encore de fontaines fonctionnelles, mais les habitants déplorent aussi le coût de l'eau.
Et conscient de ce problème, le gouvernement béninois a lancé depuis 2 ans la construction d'un château d'eau qui devrait pouvoir desservir les villages surpilotis de Soava. André Oussou Todje est le maire de cette commune.
Aujourd'hui, l'État est en train de faire des efforts. Pour la commune de Soava, que nous appelons Gambier réinventée, dans ce projet, il y a un volet électrification, ce qui se fait. Dans ce projet, il y a un volet traitement des eaux usées et installation d'un centre d'épuration. Il y a un volet adduction d'eau. Aujourd'hui, l'État est en train de construire un château d'eau de plus de 1000 mètres cubes à Calavi qui va alimenter les 40 000 habitants de Gambier. Et par ricochet, les villages qui sont proches de Gambier peuvent être alimentés par cette installation hydraulique que l'État est en train de réaliser aujourd'hui. Et à un mois et demi, on a appelé les chefs de village et les populations pour expliquer le projet, pour que les gens puissent céder des terres pour mettre en place des bonnes fontaines.
André Oussou Todje qui sera l'invité de Kpenaï Traoré tout à l'heure à partir de 13h10, temps universel, dans votre émission Un jour au village. Vous en parlez dans ce journal. Ces trois journalistes de la radio Sahara FM qui ont été relâchés ce vendredi, eh bien, ils ont été réinterpellés cette nuit aux alentours d'une heure du matin par la gendarmerie.
Et puis Nemo du sport pour refermer ce journal et de la boxe avec un gala en Guinée équatoriale ce soir.
Et une demi-finale mondiale en prime, le plus important combat de la carrière de Souleymane Sissoko. À 33 ans, le franco-sénégalais affronte le lituanien Egidijus Kavalioskas chez les moins de 67 kilos. Le natif de Dakar est invaincu en 17 combats professionnels mais ne sous-estime pas et de loin son adversaire du soir dont il analyse le parcours au micro de Sofiane Amazian.
J'ai un très bon adversaire qui a de l'expérience. Il a fait 2 fois les Jeux Olympiques. Il a déjà fait un championnat du monde. Il a plus de combats pro que moi. C'est un boxeur des pays de l'Est hein, qui est lituanien, qui avance, qui est très fort physiquement et qui frappe très fort. Donc voilà, c'est un boxeur qui est complet, qui a perdu ses 2 défaites. C'est contre les meilleurs mondiaux. Un contre Terence Crawford, qui est toujours invaincu, et contre Virgil Ortiz, qui est toujours invaincu. Donc il ne perd pas contre n'importe qui. Il a gagné aussi face à énormément de bons boxeurs.
Et ce combat entre le Lituanien Egidijus Kavalioskas et le franco-sénégalais Souleymane Sissoko n'est pas prévu avant 20h, temps universel. Un mot de football encore, Julien, sur le sable. Demi-finale de Coupe du Monde de beach soccer. Le Sénégal joue la Biélorussie. Coup d'envoi 14h, temps universel, suivi de Portugal-Brésil à 15h30, temps universel. La finale et le match pour la 3e place sont prévus demain.
Merci Nemo Ampis, à tout à l'heure.